Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le fruit d'une recherche qui m'a occupée un certain nombre d'années et qui a donné lieu donc à la publication d'un livre en 2017. Alors j'expliquais à Lydvine Scordia que je suis venue à m'intéresser à la criminalité monastique au cours de ma maîtrise qui portait sur tout autre chose, sur une chronique d'un bourgeois de Paris du XVe siècle et qui relatait un meurtre commis dans un monastère de Paris entre donc deux frères de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et à ce moment-là, ma directrice donc de maîtrise, qui s'appelle Claude Gauvard, m'avait expliqué qu'on ne connaissait pas grand-chose de la justice interne aux ordres religieux. Et l'idée m'était restée en tête, et lorsque j'ai cherché un sujet de thèse, eh bien, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure qui est de traquer les crimes commis par les moines et les religieuses au Moyen-Âge. Alors, dans son roman « Le nom de la rose », publié en 1980, l'écrivain Umberto Eco met en scène une série de meurtres commis par des moines ayant pour mobile l'existence cachée d'un manuscrit d'Aristote sur le rire. À l'instar de cette abbaye italienne imaginaire, hein, elle n'a pas existé, certains monastères occidentaux de la seconde moitié du Moyen-Âge sont le théâtre de violences, d'homicides, de vols, pour des motifs souvent bien plus prosaïques que l'accès au savoir aristotélicien. Afin d'éviter le scandale, les abbés, les évêques et les papes ont jugé, puni et souvent gracié dans le plus grand secret ces religieuses et ces religieux coupables de ces crimes. Alors, je commencerai tout d'abord par vous présenter les spécificités de la criminalité monastique, avant de m'attarder sur le cas particulier des religieuses, pour enfin envisager la manière dont l'Église corrige ces crimes. Alors, pour appréhender la criminalité au sein des communautés régulières, les historiens sont essentiellement tributaires des sources produites par les autorités en charge de corriger ces communautés. Or, le problème de l'historien, c'est que toute une série de manquements, tout ce qui est insultes échangées entre frères et sœurs, les rixes, nous échappent parce qu'ils sont directement corrigés, jugés et punis par les supérieurs dans les monastères lors d'un rite qu'on appelle le chapitre des coulpes. Alors, cette réunion, le chapitre des coulpes, le chapitre des fautes, se tient dans la salle capitulaire dans laquelle les religieux se réunissent quotidiennement pour entendre les lectures de la règle et s'occuper des affaires quotidiennes du monastère. C'est également dans ce lieu que les fautes des religieux sont corrigées. La dimension disciplinaire de cette salle capitulaire est soulignée par certains décors peints ou sculptés. Ici, je vous ai mis les décors sculptés, les sculptures des arcades de la salle capitulaire de Saint-Georges de Boscherville, qui ont été réalisées entre 1157 et 1211. Et à l'entrée de la salle, sur l'une des colonnes de la façade extérieure, vous avez un abbé mitré qui tient un phylactère sur lequel est écrit, donc c'est cet abbé-là, sur lequel est écrit donc, « Fils, soumets-toi à la discipline ». La discipline, c'est à la fois l'instrument par lequel le moine est flagellé et le nom que prend la correction que prend le moine puni. Une fois réunis donc dans la salle capitulaire, les religieux coupables d'une faute sont censés se dénoncer par eux-mêmes et demander pardon à leurs supérieurs. S'ils ne le font pas, les autres frères sont tenus de le faire au nom du principe de la correction fraternelle, tel que le prescrivent les évangiles de Matthieu. Alors, sur cette gravure du XIXe siècle, représentant une nouvelle fois la salle capitulaire donc de Saint-Georges de Boscherville, les moines sont assis sur des bancs tandis que l'abbé siège sur une chaire et ordonne le châtiment de deux religieux au centre de la salle. Donc, l'un est prosterné tandis que l'autre s'est dénudé afin de recevoir les coups administrés par un moine debout. La dénonciation collective et la correction des fautes par le supérieur, assistée par les frères, sont parfois considérées comme relevant du sceau de la confession. Dans certains textes, à l'instar de ce coutumier d'un prieuré anglais, donc de Bamwell, à la fin du XIIIe siècle, eh bien, ce coutumier précise, donc les coutumiers ce sont des textes qui précisent la règle de Benoît, qui indiquent un certain nombre de choses mais qui ne précisent pas toute la vie, donc les coutumiers ce sont des textes qui viennent combler les interstices de ce que ne dit pas la règle, eh bien, ce coutumier précise que seule la communauté doit connaître la manière dont la correction est administrée au coupable. Si nous lisons le texte, il est indiqué « Comment et par quelle manière les frères doivent corriger leurs fautes au chapitre ? Quelles pénitences doivent leur être imposées ? comment les frères doivent s'humilier eux-mêmes en se soumettant à la pénitence et comment ils doivent se comporter après s'y être soumis sont des sujets qu'il ne faut pas traiter ici, car le fait de voir ce livre pourrait faire connaître aux étrangers les secrets de l'ordre. Vous voyez que la culture du secret est très grande dans les monastères, hein, et il faut éviter de mettre par écrit tout ce qui pourrait susciter le scandale. Par conséquent, pendant longtemps, pendant tout le haut Moyen-Âge, hormis ces sources normatives qui nous indiquent qu'il y a bien des fautes qui sont corrigées, eh bien, les historiens sont bien en peine d'appréhender les types de fautes et de crimes commis par les religieux et les religieuses et la manière dont ils sont corrigés par leurs supérieurs. Les choses changent à partir du XIIe siècle, puisque l'Église et les monastères en particulier connaissent des évolutions qui changent la donne et qui permettent aux historiens de saisir des phénomènes jusqu'à présent, jusqu'alors cachés par la clôture. La première évolution que l'on peut observer, à laquelle on assiste à partir du XIIe siècle, est ce que l'on nomme le processus d'institutionnalisation de la vie religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un certain nombre de monastères, jusque-là autonomes, se rassemblent sous la forme juridique d'ordre religieux. Donc, par exemple, l'ordre de Cîteaux, ou l'ordre de Cluny, ou encore l'ordre des Chartreux. Donc on n'a plus des monastères qui sont autonomes les uns des autres, mais qui sont fédérés juridiquement ensemble. Ces ordres se soumettent, sont dirigés donc par un abbé père, l'abbé donc, qui est l'abbé de la maison mère, mais aussi et surtout par un chapitre général. Il s'agit d'une instance qui réunit en théorie tous les abbés de l'ordre chaque année, et lors de ce chapitre sont traités un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes de discipline. Ces ordres religieux donc entendent instaurer un contrôle disciplinaire sur l'ensemble des maisons de l'ordre, notamment en organisant des tournées de visite, des tournées d'inspection dans les monastères chaque année. L'apparition et le développement de ces ordres religieux, donc qui fédèrent plusieurs monastères les uns avec les autres, a une conséquence de taille pour les historiens. Les fautes les plus graves ne sont désormais plus du seul ressort de l'abbé ou de l'évêque, mais relèvent désormais donc, de ces nouvelles instances, l'abbé chef d'ordre et le chapitre général. Et ces nouvelles instances communiquent avec les monastères, produisent des écrits qui permettent donc aux historiens d'appréhender donc, ces fautes qui auparavant était ignorée. La deuxième évolution que connaît l'Église au XIIe siècle et qui change la donne pour les historiens et leur permet de cerner ces réalités auparavant cachées, c'est l'essor du pouvoir pontifical à partir du XIIe siècle et le développement d'un appareil d'État centralisé. À partir du XIIe siècle, le pape affirme en tant que vicaire du Christ qu'il est le détenteur de ce que l'on appelle la plénitude de la puissance. Il affirme sa souveraineté juridictionnelle sur l'ensemble des églises de la chrétienté. Et il intervient de plus en plus fréquemment dans la discipline des diocèses, mais aussi des monastères. Notamment, il incite les évêques, qui ont toujours eu un rôle de contrôle des monastères, à les contrôler plus étroitement par le biais de visites. On possède ainsi pour la Normandie le célèbre registre des visites de l'archevêque de Rouen, Eudrigo, qui donc va des années 1248 à 1270, et qui contient plusieurs rapports de visite faits par l'archevêque dans des prieurés et des monastères de la province de Rouen. Le fait que la correction des délinquants soit en partie externalisée, si vous me passez l'expression, conduit donc à la production de nouveaux documents administratifs qui circulent entre ces différentes instances, entre les monastères et les chapitres généraux, entre les monastères et les évêques, entre ces instances locales et la curie pontificale. Et du même coup, il devient possible pour les historiens de cerner les problèmes de discipline internes au monastère. Parmi les documents qui nous permettent de cerner ces problèmes de discipline, on peut citer notamment les procès-verbaux, les rapports de visite. Alors, les visiteurs peuvent être mandatés par l'évêque, par l'archevêque ou encore par le chapitre général. Et ils produisent, à l'issue de leur visite, des procès-verbaux d'inspection. Ici, je vous ai mis un extrait d'un procès-verbal contenu dans un registre épiscopal anglais. On conserve essentiellement des procès-verbaux de visite pour l'Angleterre, qui sont copiés dans les registres épiscopaux. Là, vous voyez que c'est une la visite, donc c'est la visite d'un prieuré de Monial, et donc le scribe a dessiné une petite Monial, une petite religieuse dans la marge. Alors, que trouve-t-on dans ces rapports de visite qui narrent donc les problèmes rencontrés? Alors, on trouve beaucoup de choses. On a des tournées d'inspection qui consistent à voir si l'église est en bon état, si les instruments liturgiques sont en bon état, si le prieuré possède des livres, etc. Mais on a aussi des rapports sur les problèmes de discipline internes au monastère et au prieuré. Alors, en voici un exemple. C'est une visite ici qui se produit en 1334 dans donc l'ordre de Cluny. Les visiteurs du prieuré clunisien de Nogent-le-Rotrou expliquent qu'un moine, Jean Bercil, est séditieux, injurieux et ivrogne. Il s'en est physiquement pris à de très nombreuses reprises à ses propres frères et à des clercs séculiers en les frappant. Nous avons trouvé deux de ses confrères qui se sont plaints de lui. Le premier parce que Jean l'a agressé dans les latrines du prieuré situées dans le dortoir, après complice, et l'autre parce que, voulant entrer dans son lit, il a tenté de lui arracher un œil. Alors, du coup, je me rends compte, il a tenté de lui arracher avec une faute. Et nous savons cela, tant de la plainte des plaignants que des autres moines du prieuré présents lors du conflit, et que de la confession que nous a faite le dit Jean Bercil. Donc vous voyez que ces visiteurs rapportent un certain nombre de manquements. On conserve également des décisions qui sont prises par les chapitres généraux en matière disciplinaire. Alors, exemple, en 1491, lorsqu'on lit les statuts, les définitions, les décisions rendues par le chapitre général cistercien, en 1491, le chapitre général cistercien apprend que les moines de Saint-André-en-Gouferne, associés à l'abbé de Foucarmont, l'abbé normand de Foucarmont, ont tenté de tuer le nouvel abbé de Saint-André en lui administrant du poison en lieu et place d'un médicament. Le chapitre, à qui est parvenue cette nouvelle, envoie plusieurs abbés normands enquêter et juger les moines fautifs. Alors, dans le même temps que les autorités ecclésiastiques favorisent la production de ces documents à usage interne, elles redoublent de précautions pour empêcher que les crimes des moines et des religieuses ne s'ébruitent et ne soient connus à l'extérieur des monastères auprès des fidèles. Donc il y a en fait une tension. À la fois, il faut produire des documents pour corriger les manquements et en même temps, il ne faut pas que ces documents tombent entre de mauvaises mains. Par crainte du scandale, les autorités mettent en place des stratégies. Donc on évite par exemple de mettre par écrit les affaires les plus sensibles et on préfère confier à un messager le soin de les rapporter aux autorités. Autre mesure de précaution, le plus souvent, on détruit les rapports de visite après que les visiteurs ont fait leur rapport auprès des instances supérieures, parce que il faut éviter donc que les choses ne soient connues à l'extérieur. Alors, outre la crainte du scandale, des raisons plus pragmatiques expliquent la rareté et la dispersion de ce type de documents. Eh bien, une fois que les coupables sont punis, les autorités n'ont aucune raison de conserver la trace des décisions disciplinaires. Donc on a à la fois la crainte du scandale qui rend ces documents difficiles à saisir, et puis des raisons qui font qu'on n'a aucune raison effectivement de garder la mémoire de ces manquements une fois que le problème est réglé. Les documents qui nous sont parvenus sont donc des exceptions et présentent un certain nombre de difficultés quant à leur interprétation. Lorsqu'un acte violent, par exemple, est relaté, est mentionné, celui-ci est le plus souvent présenté de manière assez laconique. L'exemple que je vous ai donné de Jean Bercil est assez peu représentatif. Souvent, les noms des protagonistes, la nature exacte de leurs crimes, ou encore les peines et les pénitences qui leur ont été prescrites, sont tues, ou peuvent être tues. On dit un moine de tel endroit a commis, par exemple, des excès, des énormités, des crimes. Donc on dit la gravité du crime sans en préciser la nature exacte. Il faut bien comprendre que ces documents permettent moins de saisir la réalité des crimes commis que la manière dont les autorités ecclésiastiques les appréhendent, les comprennent, les construisent et les corrigent. Ainsi, l'attention des abbés et des évêques se focalise particulièrement sur certaines infractions, notamment celles qui contreviennent aux vœux monastiques, qui portent atteinte à l'intégrité de l'Église et qui mettent en cause son autorité sur les fidèles. Parmi les infractions qui focalisent l'attention des évêques et des abbés, on peut citer la rupture du vœu de chasteté, ce que les moines appellent l'incontinence, le fait de ne pas contenir et de donc rompre son vœu de chasteté, les sorties illicites du cloître, ce que l'on appelle en fait l'apostasie dans le vocabulaire monastique, ou encore les violences entre moines, sachant que ces violences, comme l'apostasie, sont toutes les deux sanctionnées d'une excommunication automatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une excommunication automatique ? C'est un dispositif qui est mis en place par l'Église, et notamment par le droit pontifical, à partir du XIIe siècle, hein, toujours ce moment où les choses se hiérarchisent. Donc c'est un dispositif qui permet de contraindre les moines, mais plus généralement les fidèles, à respecter les normes édictées. Si un religieux s'en prend à l'un de ses confrères, ou à un prêtre, à une personne ecclésiastique, il est automatiquement excommunié, sans qu'un juge ecclésiastique ait besoin de prononcer une sentence. L'excommunication est, on dit, ipso facto, c'est-à-dire qu'il est excommunié par le simple fait d'avoir porté la main sur l'un de ses confrères. Pour obtenir la levée de ces excommunications, donc de ces peines, ces censures, les religieux fautifs doivent obligatoirement recourir au pape. C'est comme ça que le pape formule son droit. C'est un des exemples qui montre comment l'Église se centralise à partir du XIIe siècle, hein, c'est-à-dire que le pape aspire à connaître toutes les infractions commises, notamment envers le clergé. Mais très vite, cela provoque un engorgement au niveau de la curie pontificale, et très vite, le pape délègue ce pouvoir d'absoudre aux évêques, aux abbés ou aux ordres religieux. Mais dans tous les cas, tout religieux qui s'en prend physiquement à un autre moine est excommunié automatiquement et doit demander une absolution. Donc, quel que soit le prélat sollicité, l'obtention de cette absolution, l'obtention de la levée de cette censure ecclésiastique qui est l'excommunication, laisse une trace écrite dans les sources, y compris lorsqu'on a juste affaire à une banale gifle assénée au cours d'un repas au réfectoire un peu trop arrosé. Donc on trouve la mention de ces demandes de grâce, ces demandes de levée de l'excommunication, dans les archives des chapitres généraux, dans les registres des évêques, mais aussi dans les archives de la bureaucratie pontificale. Alors, c'est la diapositive que j'ai indiquée ici. Il y a un bureau en particulier qui traite ces demandes de grâce, qu'on appelle des suppliques. Il s'agit de la pénitencerie apostolique. Donc, la pénitencerie apostolique est un bureau pontifical qui est chargé d'absoudre au nom du pape les chrétiens qui la sollicitent. Les absoudre donc de quoi ? De leurs péchés, de leurs crimes et des peines ecclésiastiques qui ont été prononcées à leur encontre. Parmi les suppliants qui sollicitent cet office pontifical, on trouve de très nombreux fidèles, hein, des clercs, des laïcs, mais aussi des moines en très grand nombre. Et ces moines, donc, s'ils sollicitent le pape, c'est parce qu'ils ont enfreint le droit canonique de diverses manières, donc soit en étant violents, soit en étant homicides, en ayant volé, en ayant falsifié des lettres pontificales, etc. Pour demander pardon au pape, ils peuvent entreprendre un voyage long et coûteux à la curie romaine, ou bien solliciter le pape par écrit. Pour ce faire, ils font appel à un procureur, qui est expert du droit canonique, qui va transformer contre rémunération la requête de son client en une supplique rédigée en latin, qui respecte les formes du droit. Une fois que la supplique a été rédigée, le procureur est chargé de la transmettre au personnel de la pénitencerie, et si la demande du suppliant est approuvée, la pénitencerie rédige une lettre qui accorde la grâce demandée et qui est généralement adressée soit à l'évêque du suppliant, soit à son abbé. Alors, on a conservé très peu de suppliques écrites par ces fidèles qui sollicitent le pape. En revanche, ce que l'on a conservé, ce sont les registres dans lesquels la pénitencerie a copié les suppliques qu'elle a approuvées. Et donc, vous avez ici une photo qui vous montre l'ensemble des registres conservés donc, par la pénitencerie apostolique actuelle et qui renferment les copies des suppliques rédigées par des milliers et des milliers de chrétiens de l'ensemble de l'Occident qui sollicitent le pape. Alors, je vous ai mis aussi donc, une photo donc, de l'intérieur de ces registres. Donc, ces registres hein, représentent un gisement documentaire tout à fait remarquable qui permet d'appréhender nombre d'aspects de la vie des hommes et des femmes du Moyen-Âge, et notamment donc la vie des moines et des religieuses. Pendant longtemps, pendant très longtemps même, ces registres ont été inaccessibles aux chercheurs, car le Vatican craignait que ces registres ne concernent des matières protégées par le sceau de la confession. Et ce n'est qu'en 1988 que le pape Jean-Paul II a autorisé leur consultation. Aujourd'hui, ces archives sont entreposées au palais de la chancellerie à Rome, siège de l'actuelle pénitencerie apostolique, donc ce sont des archives qui relèvent encore et toujours aujourd'hui de l'autorité du cardinal pénitencier. Alors je vous propose de vous lire l'une de ces suppliques émanant d'un moine normand qui a été approuvée par la pénitencerie le 5 mars 1449. Il est présenté à votre sainteté par votre dévoué Rodolphe Catulle, moine prêtre professe du monastère de Sainte-Marie de Cormeilles, c'est un monastère qui a été détruit à la Révolution, de l'ordre de Saint-Benoît, dans le diocèse de Lisieux, que, il y a quelque temps, une dispute a éclaté au crépuscule entre lui et l'un de ses confrères assez querelleurs, frère Jean Lange, moine prêtre. Ce moine a prononcé de graves injures contre lui. Assez ébranlé par les injures infligées, le suppliant a dégainé un petit couteau qu'il portait sur lui pour les repas et a frappé et blessé son confrère. Le moine est mort peu de temps après de ses blessures. Redoutant cela, Robert est sorti illicitement de son monastère tout en gardant son habit. Il s'est rendu auprès de son supérieur, qui résidait alors en dehors du monastère, et lui a demandé l'autorisation de se rendre à la curie romaine pour demander à recevoir humblement le bénéfice de l'absolution et de la dispense en raison des faits mentionnés précédemment. Cependant, Saint-Père, comme le suppliant n'a pas frappé et blessé son confrère délibérément, mais mu par la folie furieuse, le texte parle de fureur, en raison des insultes proférées et infligées, et qu'en raison de ses coups et blessures, le moine est décédé, le suppliant a regretté et regrette cette mort. Mu par la ferveur d'une grande dévotion, et afin de ne pas être forcé à mendier pour le plus grand opprobre des clercs, il désire pouvoir servir Dieu perpétuellement dans les ordres mineurs. L'exposant supplie humblement votre sainteté d'être absous des sentences d'excommunication encourues, du crime d'homicide et de ses péchés. Il demande la dispense pour pouvoir servir licitement dans les ordres mineurs et pour recevoir et retenir licitement un bénéfice ecclésiastique sans cure des âmes. Il demande miséricordieusement à être transféré dans un autre monastère de l'ordre ou d'une observance identique ou plus dure. Donc ça, c'est la supplique qui est copiée, sans doute un peu abrégée par rapport au récit livré par le moine. Enfin, en dessous donc, du texte de la supplique, est indiquée la formule d'approbation, qu'il soit fait ainsi de grâce spéciale, et la signature de celui qui approuve la supplique, et qui approuve la demande de grâce, ici Domenico Capranica, pénitencier majeur, donc l'officier qui est en charge du bureau pontifical de la pénitencerie. Alors, si on examine un petit peu cette supplique, dans la supplique, Rodolphe confesse avoir agi à rebours des normes et des valeurs de la vie monastique. Provoqué par les insultes de son confrère, il n'a pas tendu l'autre joue comme le prescrit le Christ, mais au contraire, il s'est laissé emporter par ses émotions. Le texte parle de, le texte latin évoque le mot commotus, et a répliqué par des coups de couteau. Donc cette supplique montre que loin d'être coupés du monde, les moines de la fin du Moyen-Âge s'inscrivent pleinement dans la société d'honneur qu'est la société médiévale, et étudié entre autres par Claude Gauvard, dans laquelle les injures, en mettant en cause la réputation et l'intégrité de celui qui est insulté, appellent un démenti violent. C'est-à-dire que si l'on ne réplique pas à l'insulte, celle-ci crée un état irréversible, et il faut donc rétablir son honneur, y compris en recourant à la violence. Donc le frère, le moine, hein, cherche ici à reconstituer son capital d'honneur entamé en répliquant par des coups. Donc ce que montrent ces suppliques, hein, c'est la porosité du cloître aux valeurs du monde et la manière dont ces moines ont parfois du mal à se comporter en moine, mais plutôt se comportent comme l'ensemble de la société. La porosité du cloître au monde s'observe également dans la temporalité du crime. La dispute survient à la tombée de la nuit, au crépuscule, après une journée de prière et de labeur qui favorise l'échauffement des esprits. Le début de la nuit correspond également, quand on lit les suppliques données par les moines, à un moment où certains religieux, pas tous, hein, se réunissent après le repas pour boire de manière illicite ou pour se livrer à des jeux d'argent. Et c'est souvent au cours de ces potationes, hein, ces potations où les gens boivent, et où ils jouent à des jeux de dés notamment, que les choses dégénèrent en bagarre. Si Rodolphe Catulle reconnaît avoir usé de violence, il entend cependant obtenir l'absolution de ses crimes, donc à savoir l'homicide et l'apostasie, puisqu'il est, en plus d'avoir tué son confrère, il est sorti illicitement de la clôture. Il lui faut donc obtenir l'absolution de ses crimes et la levée des excommunications qu'il a encourues automatiquement, hein, en portant la main sur son frère et en sortant de la clôture. À cette fin, il présente l'homicide comme accidentel et met en avant, lui et son procureur, une série de circonstances atténuantes. Il explique tout d'abord qu'il n'a pas utilisé d'armes offensives, comme une épée ou un poignard, qui sont rigoureusement interdites dans le cloître, mais un petit couteau, autorisé par la législation monastique, et que les religieux portent ordinairement à leur ceinture, comme outil du quotidien, notamment pour couper le pain au réfectoire. La deuxième circonstance atténuante invoquée par le moine est un peu plus surprenante et un peu plus ambiguë. Il explique qu'il a été pris de fureur, de folie furieuse. Alors, l'invocation de cet argument s'inscrit dans le cadre d'une stratégie argumentative qui vise à minorer la responsabilité du suppliant. La colère, comme la folie furieuse, sont en effet considérées comme une cause d'altération temporaire des facultés intellectuelles. Et les actes commis par folie furieuse, dans le droit canonique, ne sont pas considérés comme imputables. C'est le cas dans le droit canonique, mais aussi lorsqu'on le regarde, les justices laïques. Ainsi, si l'on compare cette lettre à un autre type de document assez similaire qui sont les lettres de rémission. Les lettres de rémission, ce sont des lettres par lesquelles les sujets du roi de France sollicitent le roi pour notamment des cas d'homicide, pour demander pardon au roi et interrompre le cours de la justice. Et bien, dans ces lettres, on trouve souvent des hommes qui expliquent, pour excuser leur homicide, avoir été pris de chaude colle, c'est-à-dire d'un irrépressible accès de colère. Donc c'est un argument qu'on trouve souvent chez les laïcs, le fait d'avoir perdu momentanément son esprit pour excuser le geste homicide. Cependant, là on est dans un cadre un peu différent. Le moine ne peut pas tout à fait reprendre ce type d'argumentation, puisque la colère et la folie furieuse sont d'exécrables péchés lorsqu'on lit les auteurs monastiques. Et donc il est plutôt rare de trouver ce type d'argument dans les suppliques qu'écrivent les religieux. Le cas de Rodolphe est un petit peu exceptionnel. Dans tous les cas, vous constatez que tout au long de sa supplique, Rodolphe ne cesse de dire qu'il regrette la mort de son confrère, qu'il est humble, qu'il demande la miséricorde du pape. Donc le processus de la supplication, le fait d'écrire la supplique, transforme le moine emporté par ses passions en un religieux pénitent, ce qui lui permet d'obtenir le pardon pontifical. Donc il obtient l'absolution de son crime, l'homicide, la levée des excommunications encourues non seulement pour avoir frappé son frère, mais aussi pour s'être enfui du monastère, et il obtient aussi l'autorisation de changer de monastère. Il obtient une dispense, une dérogation. Normalement, le moine est astreint à la stabilité, il ne peut pas changer de monastère comme il le veut, mais ici, le cardinal pénitentiaire lui donne l'autorisation de changer de monastère, sans doute parce qu'il n'est guère facile de retourner vivre dans une communauté quand on est coupable du meurtre de l'un de ses confrères. Alors, j'ai jusqu'à présent principalement évoqué des moines criminels et des communautés religieuses masculines. Qu'en est-il des religieuses ? La supposée douceur féminine les tient-elle à l'écart des crimes sanglants ? Alors, il faut tout d'abord remarquer que les crimes commis par les religieuses soulèvent, encore plus que ceux qu'ont commis par les religieux, un certain nombre de problèmes d'interprétation. Alors, si on considère uniquement les cas d'homicide et de violence, la proportion des religieuses délinquantes est extrêmement faible. Entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, je n'ai recensé qu'une trentaine de cas, pour plus d'un millier de cas dans les communautés masculines. Difficile à traquer et à interpréter dans les communautés masculines, les crimes commis par les religieuses le sont encore plus. Alors, plusieurs raisons expliquent cette sous-représentation des religieuses. Tout d'abord, si les crimes des moines sont scandaleux parce qu'ils contreviennent à l'idéal de perfection prêché par l'Église, que dire de ceux des religieuses qui sont des femmes saintes, des mulieres sanctae et les épouses du Christ ? Donc on retrouve ce même problème du scandale qui fait qu'on va encore plus cacher les manquements des religieuses que celles des religieux. Ensuite, l'organisation institutionnelle des couvents féminins fait que nombre de manquements sont directement corrigés par l'abbesse ou par les autorités masculines de tutelle, l'évêque ou l'abbé qui est chargé de chapeauter l'abbesse, sans forcément donner lieu à la production de sources écrites. Et donc ce n'est que très incidemment, notamment dans les registres épiscopaux, que l'on trouve la mention de coups échangés entre religieuses. Alors je citerai le cas de religieuses du diocèse de Troyes. En 1466, le registre du tribunal épiscopal de Troyes, en Champagne, enregistre le procès d'une religieuse de Notre-Dame aux Nonains, donc un couvent qui se trouve au cœur de la ville de Troyes. Une dénommée Jeannette de Grévent, trésorière du couvent, est accusée d'avoir injurié et frappé une autre moniale, Catherine de Coursan, qui occupe quant à elle l'office de chantre. L'altercation est connue en détail grâce aux dépositions des religieuses. Jeannette a d'abord traité Catherine de paillarde et de ribaude, avant de la saisir par le bras et de la pousser violemment contre la porte de l'une des chambres du monastère. Catherine se met alors à crier, affirmant que Jeannette a cherché à l'étrangler. Et donc cette dernière est excommuniée par le juge épiscopal. En dehors de ces registres épiscopaux, pourquoi dans les registres épiscopaux ? Parce que c'est l'évêque qui intervient plus facilement dans ces communautés féminines. Eh bien, en dehors de ces registres épiscopaux, seuls les crimes et les violences exceptionnelles, extrêmement graves, apparaissent dans les archives. Alors ces crimes extrêmement graves et ces crimes exceptionnels, ce sont notamment des cas d'infanticide et des cas d'empoisonnement de la supérieure. Sous-représentées parmi les criminels, elles représentent moins de 3% des criminels que j'ai pu recenser, les religieuses sont au contraire surreprésentées dans les affaires d'infanticide et les cas d'empoisonnement de la supérieure. Ces crimes sont ceux que l'historiographie a longtemps présentés comme des crimes typiquement féminins. En raison de leur fragilité physique, mais aussi de leur perfide psychologie, les femmes seraient plus enclines à utiliser le poison que la force et ne pourraient s'en prendre physiquement qu'à leurs propres enfants. Ce cliché rejoint les préjugés des médiévaux et notamment des clercs qui font de la femme une empoisonneuse. Cependant, cette surreprésentation est avant tout un effet de source. Alors que les bagarres, les rixes, les injures entre moniales sont traitées localement par l'abbesse ou les autorités masculines de tutelle, les infanticides et les empoisonnements, parce qu'ils transgressent l'ordre social et souillent l'honneur de l'Église, relèvent des autorités, des instances suprêmes, comme le chapitre général ou le pape, puisque ce sont les seules autorités habilitées à corriger de si grandes offenses, soit en punissant la coupable de façon exemplaire, soit, au contraire, en étouffant l'affaire. Alors, pour illustrer un peu plus concrètement ce processus, je vais citer un cas, cette fois-ci italien, qui provient d'un couvent de San Martino di Varese dans le diocèse de Milan. Alors, c'est une des rares suppliques que l'on conserve à la pénitencerie apostolique et qui est écrite par une religieuse criminelle. Donc, cette religieuse s'appelle Petrina Bosser. Elle l'écrit en 1452 et donc elle rédige une supplique avec l'aide d'un procureur dans lequel elle avoue un grand et énorme crime que seul le pape, dit-elle, peut pardonner. Alors, qu'a-t-elle fait ? Ayant conçu un enfant avec un laïc, elle a accouché en secret, a baptisé son enfant avant de le tuer et de l'enterrer. La moniale demande à être absoute de son crime et à être lavée de l'infamie. L'absolution lui est accordée par le pénitencier majeur, qui précise que la grâce lui est donnée car, je cite, « le délit est resté secret et afin d'éviter le scandale ». Le pénitencier commissionne le recteur paroissial d'une paroisse voisine du monastère, qui est connu pour sa probité, afin qu'il inflige une pénitence à la moniale. Alors, dans cet exemple, le crime absous est extrêmement grave. Il s'agit d'un péché contre d'un crime contre nature, une femme qui tue son enfant, est énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire énorme ? Dans le vocabulaire pontifical, et comme l'a montré Julien Théry, le terme « énorme », qui excède la norme, désigne une infraction à la norme extrêmement grave parce qu'elle porte atteinte à l'ordre institué par Dieu. L'infanticide apparaît d'autant plus grave qu'il est accompli clandestinement et frappe une victime vulnérable, l'enfant nouveau-né dont le salut n'est pas toujours assuré par le baptême. L'infanticide est en outre un crime prémédité, au contraire de Rodolphe Catul qui dit qu'il a accidentellement tué son frère. La moniale incontinente, en plus, donc pourquoi préméditer ? Parce que la moniale a commis un double manquement. Non seulement elle a rompu son vœu de chasteté, mais elle sait que le moment devenu, elle devra cacher sa première transgression, la rupture du vœu de chasteté, en commettant un homicide sur l'enfant nouveau-né. Cependant, ce crime énorme, ce crime qui remet totalement en cause l'ordre voulu par Dieu, est resté tout à fait occulte et secret. Et en tant que tel, il relève du jugement de Dieu seul. La grâce est possible parce que le crime n'a pas été dévoilé. Hein. Il a sans doute été confessé par la moniale à son confesseur, qui lui a dit qu'il ne pouvait pas, compte tenu de la gravité du crime, l'absoudre et qu'il fallait qu'elle s'adresse donc à des instances supérieures, à savoir le pape. En octroyant le pardon et en s'assurant de la pénitence des coupables, ici, la pénitencerie cherche à empêcher l'éclosion du scandale et à préserver l'intégrité de l'Église. Alors, pour conclure sur le cas particulier des femmes, alors que la documentation médiévale permet de saisir la criminalité, je dirais, ordinaire des moines, les violences entre confrères, bien plus que les violences envers le supérieur, les vols, les homicides, eh bien pour les religieuses, la rareté des sources et l'hétérogénéité des corpus documentaires, hein, d'un côté les registres épiscopaux et de l'autre ces sources qui relèvent des instances suprêmes de l'Église, fournissent une image très contrastée de la criminalité, avec d'un côté donc les chicaneries ordinaires, renseignées principalement par les registres épiscopaux, mais qui ne donnent pas lieu forcément à des rapports écrits, et puis de l'autre, ces crimes extraordinaires, sans doute très rares, l'infanticide et l'empoisonnement de la supérieure, mais qui, parce qu'ils sont graves, eh bien, surgissent dans les sources. Alors, j'en arrive à présent au troisième et dernier temps de mon intervention, qui consiste à savoir comment l'Église réagit face aux crimes des moines et des religieuses. Punir ou pardonner. Alors, les règles, la règle de Benoît, les coutumiers donc, qui complètent cette règle, ou encore les statuts qui sont rédigés par les ordres religieux, et par les évêques, prévoit tout un système gradué de sanctions en fonction de la gravité de la faute et de la capacité du délinquant à faire preuve de repentir. Alors, lorsque l'on lit ces sources normatives, que nous disent-elles donc de la façon dont on punit un coupable ? Alors, le coupable est tout d'abord isolé du reste de la communauté. Il est exclu de la prière, donc de l'Église, et de la vie commune. Alors, je n'ai pas d'image à vous montrer médiévale, mais ici vous avez donc une gravure du XVIIe siècle qui vous montre le réfectoire de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Et vous avez une des religieuses que j'ai entourée qui, en fait, n'est pas à la table, elle est privée de la table commune, elle est au pied de ses sœurs et elle fait pénitence, elle est exclue en raison d'une faute. Donc ça, c'est le premier type de sanction, c'est le fait d'être exclu des grands temps communautaires que sont la prière et la vie commune au réfectoire. Si le fautif ou la fautive ne s'amende pas, eh bien, on passe à des mesures plus sévères. Le fautif est soumis à des jeûnes sévères et en cas d'échec, il peut être flagellé à coups de verge. S'il persévère encore, on a donc ce système gradué, eh bien, les sources normatives prévoient que le fautif ou la fautive puisse être expulsé du monastère. Si on lit par exemple le coutumier bénédictin anglais Desham au XIIIe siècle, celui-ci précise que le moine rebelle ou le moine incorrigible est privé de son habit et expulsé, non pas par la porte principale de l'abbaye, mais par une porte dérobée, l'expulsion fonctionnant alors comme un rythme inversé de profession monastique. On prive le moine de son habit et on le fait sortir par une porte, une petite porte. Cependant, à partir du XIIIe siècle, l'expulsion des incorrigibles est de plus en plus remise en cause. En effet, si l'expulsion des moines et des moniales fautifs permet de préserver la communauté religieuse de la contagion, elle présente l'inconvénient de laisser vagabonder des religieux délinquants susceptibles de provoquer le scandale parmi les fidèles. Et donc progressivement, lorsque l'on regarde l'évolution des sources législatives, on constate que l'expulsion est progressivement remplacée par deux autres peines qui deviennent les peines pivots du système pénal mis en place au sein des ordres religieux, à savoir d'un côté le transfert pénitentiel dans un autre monastère et d'autre part l'emprisonnement. Alors, si l'on s'intéresse à ce que c'est que cette peine de transfert, eh bien, le religieux puni par une peine de transfert est généralement envoyé dans un monastère éloigné de son établissement d'origine, où il va être soumis à une série de pénitences, c'est-à-dire qu'il occupe le dernier rang de la communauté, il est le dernier lors des processions, il est le dernier à rentrer au réfectoire, etc. Il peut être exclu de la vie commune, il peut être soumis à des jeûnes au pain et à l'eau, certains jours de la semaine, et il est régulièrement flagellé. Ce transfert pénitentiel, donc cette expulsion non plus en dehors mais dans un autre monastère, doit conduire le coupable à la récipiscence, mais vise également à pacifier la communauté dont la paix et la tranquillité ont été troublées. Il s'agit donc, par ce transfert, d'éloigner la source de corruption et en même temps d'étouffer le scandale. Ainsi, au XIIIe et XIVe siècle, pour revenir à la Normandie, l'abbé de Sainte-Catherine de Rouen prend l'habitude d'envoyer régulièrement ses moines indisciplinés dans son prieuré dépendant de Blis, son prieuré anglais qui est situé outre-Manche, ce qui n'est pas sans susciter à la fois les critiques des évêques et des archevêques anglais qui ne veulent pas voir arriver des moines normands indisciplinés dans les prieurés anglais, mais aussi des moines eux-mêmes qui expliquent qu'ils sont malheureux, coupés de leur pays natal. Dans ses finalités comme dans sa mise en œuvre, cette peine de transfert rappelle d'autres peines que l'on trouve dans, dans les justices laïques, les procédures d'exil et de bannissement d'une ville, d'une province ou d'un royaume qui sont mises en place par les justices laïques pour un temps ou pour la vie et donc qui sont couramment employées pour condamner les criminels. La deuxième peine qui devient véritablement une peine pivot du système pénal dans les ordres religieux, c'est la peine de prison. Donc le moine délinquant peut également être enfermé, il est déjà enfermé dans son cloître, mais il est enfermé au carré au sein, c'est un enfermement punitif. Alors là encore, je n'ai pas d'illustration pour vous montrer la situation des moines enfermés en prison, mais par contre, dans les marges d'un décret de Gratien qui se trouve à la British Library, on a une représentation d'un moine et d'une religieuse qui sont entravés et donc qui vous donne un peu une idée des conditions de ces moines enfermés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types d'enfermement punitif au sein des monastères. Le moine ou la religieuse fautif peuvent tout d'abord être reclus dans une pièce qui est fermée à clé, c'est-à-dire que ça n'est pas une prison en tant que telle, mais le moine est pour le coup enfermé punitivement dans le monastère. Ainsi, en 1249, lors de la visite du prieuré de chanoine Augustin d'Ouville-l'Abbaye, l'archevêque de Rouen, Eudrigo, condamne Jean Gallicot, qui s'est échappé 7 fois de son prieuré, à être enfermé dans un réduit préparé à son intention. Alors, cette pièce dans laquelle on enferme les religieux, on a du mal à la situer, il semble qu'il n'y ait pas de lieu spécifiquement affecté à son usage, on prend un endroit qu'on peut fermer. Dans les cas les plus graves, les religieux peuvent aussi être enfermés, non pas dans une pièce fermée, mais dans une véritable prison qui s'appelle un carcère à l'intérieur du monastère, et que là aussi on peine à situer. Il semblerait que dans certains monastères, ce carcère, donc cette prison, se trouve sous l'escalier qui conduit au dortoir. Alors, l'usage de la peine de prison, c'est pas une nouveauté du XIIIe siècle, on le trouve mentionné dans plusieurs règles monastiques du Haut Moyen-Âge, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où, du XIIIe siècle, au moment où plusieurs monastères se fédèrent en ordre religieux et s'organisent hiérarchiquement, cette peine se généralise. Elle est de plus en plus utilisée dans les monastères, et c'est aussi à ce moment-là que dans les justices séculières, les rois et les villes prescrivent de plus en plus des peines de prison, de même que les justices ecclésiastiques enferment en prison les hérétiques, par exemple. Alors, si l'on en revient à les ordres religieux, on a une concomitance dans les législations qui montre que tous les ordres religieux se dotent de prisons. En 1229, l'ordre de Cîteaux, qui est bientôt imité par les autres ordres, ordonne ainsi la construction de prisons dans toutes les abbayes afin d'enfermer les sodomites, les voleurs, les incendiaires, les faussaires et les homicides. Donc je vous ai mis plusieurs mesures qui vous montrent qu'on trouve ce type de mesures dans les législations de chacun des ordres, les ordres de prémontrés, les chanoines augustins anglais, les bénédictins anglais, les chartreux. Au XIIIe siècle, tous ces ordres se dotent de prisons, ou du moins ordonne au monastère de se doter de prison. Dans certains ordres religieux, on fait le choix de centraliser l'accueil des délinquants dans un seul établissement. C'est le cas notamment chez les chartreux, où la grande chartreuse accueille nombre de religieux fautifs, pour l'entretien desquels le prieur de la grande chartreuse réclame régulièrement de l'argent aux prieurs des monastères d'origine. Et donc, lors des chapitres généraux, on voit le prieur de la Grande Chartreuse qui régulièrement explique que pour tel frère enfermé, il faudrait que tel prieur verse l'argent pour l'entretien du moine. Et on peut du coup voir que certains moines passent de nombreuses années enfermés donc dans la prison de la Grande Chartreuse. Donc, avec le transfert pénitentiel, la peine de prison donc, constitue l'une des seules peines afflictif du système pénal monastique, qui est présenté par certaines législations comme l'équivalent pour les moines de la peine capitale pour les laïcs. Alors, je cite les statuts bénédictins de la province de Sens de 1299. Il est indiqué que si un moine est pris sur le fait en train de commettre un vol, un homicide ou un autre crime énorme, on retrouve cette notion d'énormia, de crime qui excède la norme, ce crime pour lequel, s'il était un laïc, il devrait subir la mort, il devra être détenu en prison sans aucune pitié. Donc, ces peines de transfert et de prison visent avant tout à pousser le coupable à s'amender afin d'être réintégré au sein de la communauté. Donc, si un moine montre des signes de repentir, il peut voir sa peine aménagée, voire remise, au nom de la miséricorde divine. Ainsi, en 1492, l'abbé du Landais écrit au chapitre général de Citeaux au sujet d'un moine, Adam Bondin, dont il dit qu'il a commis le péché de chair, qu'il a frappé jusqu'au sang plusieurs religieux et est sorti plusieurs fois du monastère de jour comme de nuit. L'abbé assure que le moine a accompli patiemment sa pénitence et il demande sa réhabilitation. Le chapitre général de Citeaux accède à sa demande et interdit aux autres moines de faire reproche à Adam de ses crimes passés. Ce qui est intéressant, c'est que, en définitive, plus de la moitié des crimes monastiques qui sont parvenus à notre connaissance le sont non pas par l'intermédiaire des rapports de visite dont je vous ai parlé au début, ni par l'intermédiaire des sentences qui sont prononcées par les évêques, les chapitres généraux ou par le pape, mais par le biais des grâces qui sont accordées aux religieux et aux religieuses criminelles. Alors, comment interpréter le fait que l'on connaît essentiellement ces déviances par le biais des grâces ? Loin de confirmer le point de vue traditionnel selon lequel les religieux de la fin du Moyen-Âge seraient plus déviants et plus criminels, l'Église plus laxiste et les monastères de plus en plus décadents à la veille de la Réforme, ce constat éclaire les particularités du fonctionnement des justices ecclésiastiques médiévales. Leur but, le but de ces justices médiévales, n'est pas de punir le crime en fonction d'un châtiment prévu par le droit, mais de corriger. J'ai beaucoup employé ce mot, c'est-à-dire d'amender et de réformer le comportement des délinquants tout en limitant le risque de contagion et de scandale auprès des fidèles. Alors, si on reprend l'exemple du moine bénédictin de Cormeil, celui qui a donné un coup de couteau à son frère et qui, celui-ci en étant mort, on constate que la grâce accordée n'est pas toujours pleine et entière. Si vous vous rappelez, le moine a bien obtenu l'absolution de son homicide, la levée des excommunications encourues pour avoir frappé son frère et être sorti illicitement du cloître, mais il a aussi obtenu l'autorisation de changer de monastère, mais il ne peut plus exercer comme prêtre. Il se présente comme prêtre, mais on lui explique que désormais, il ne pourra plus exercer que dans les ordres mineurs, donc probablement comme diacre, et il ne pourra pas avoir un bénéfice avec la cure des âmes, hein, il ne pourra avoir qu'un bénéfice simple. Son crime, donc, est gracié, mais pour autant, l'entache suffisamment pour le rendre inhabile dans l'exercice de ses fonctions. Pour conclure, on peut remarquer que si la documentation médiévale atteste de l'importance des absolutions accordées aux délinquants, elle témoigne aussi de l'efficacité du contrôle disciplinaire exercé par les autorités ecclésiastiques auxquelles les délinquants doivent recourir s'ils veulent être réconciliés. Autant que par la rigueur, c'est en effet par la miséricorde que le pouvoir justicier du pape comme celui des ordres religieux s'est construit et s'est affermi à la fin du Moyen-Âge. Je terminerai cette présentation par quelques indications bibliographiques, si le thème vous intéresse, de livres récents. Sur la pénitencerie, cet office qui absout non pas seulement les moines, mais l'ensemble des fidèles, vous avez la thèse d'Arnaud Fossier qui vient de paraître, qu'il a intitulé « Le bureau des âmes, écriture et pratique administrative de la pénitencerie apostolique », qui montre le fonctionnement de ce bureau pontifical. Je vous indique également le dernier livre de Claude Gauvard qui porte sur la peine de mort au Moyen-Âge. Et puis donc mon ouvrage qui, pour le coup, est un prix tout à fait prohibitif. Et sur la thématique des enfermements monastiques et carcéraux, je vous indique le web documentaire « Le cloître et la prison, les espaces de l'enfermement » qui, lui, est disponible en ligne gratuitement à l'adresse cloîtreprison.fr et qui est un parcours historique à travers les espaces de l'enfermement, qu'ils soient monastiques et carcéraux, et qui prend, qui s'implante au cœur du site de Clairvaux, abbaye cistercienne transformée en maison France Rale par Napoléon et aujourd'hui encore maison centrale. Je vous remercie.